Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Jeu et réalité est un recueil théorique majeur de Donald W. Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique, paru après sa mort et issu de textes élaborés au cours de sa pratique clinique, dans cette édition française de Folio Essai. Le livre développe une pensée de la vie psychique centrée sur le jeu, la créativité et les conditions relationnelles qui rendent possible le sentiment de réalité. Son point de départ est la notion devenue classique de phénomène transitionnel, illustrée notamment par le lien de certains enfants avec un objet investi de façon singulière. Winnicott ne réduit pourtant pas cette question au développement infantile. Il examine comment un espace potentiel, situé entre monde intérieur et réalité partagée, soutient la culture, la relation thérapeutique et la capacité de vivre de manière personnelle. L'ouvrage se présente comme une série d'essais plutôt que comme un système fermé. Il demande donc une lecture attentive, mais sa force tient à une articulation originale entre observation clinique, réflexion psychanalytique et compréhension de l'expérience culturelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'objet transitionnel comme première expérience de séparation tolérable. Le concept de phénomène transitionnel désigne une zone précoce de l'expérience dans laquelle le nourrisson commence à composer avec la séparation entre lui-même et la personne qui prend soin de lui. Un tissu, une peluche ou un autre objet familier peut recevoir une importance intense sans être traité simplement comme une possession ordinaire. Sa fonction ne réside pas dans sa matière, mais dans le fait qu'il aide l'enfant à maintenir une continuité affective lorsque la présence maternelle n'est pas immédiate. Winnicott refuse de demander si cet objet est entièrement créé par enfant ou objectivement trouvé dans le monde. Cette question doit rester en suspens car cette indécision décrit précisément son statut psychique. L'objet est à la fois donné par environnement et investi de manière créative. Cette formulation déplace la psychanalyse vers les conditions concrètes de la dépendance initiale. Elle montre que l'autonomie ne surgit pas par rupture nette avec autrui, mais grâce à des expériences répétées où absence peut être supportée sans effondrement du sentiment de continuité. Le concept éclaire aussi la persistance, chez adultes, de pratiques et objets investis qui procurent réconfort ou concentration sans devoir être confondus avec une pathologie. La question clinique est plutôt de savoir si ces appuis restent souples, vivants et compatibles avec une relation au monde partagé. Deuxièmement, l'espace potentiel entre réalité intérieure et monde commun. La contribution la plus distinctive de jeu et réalité est sans doute la description de l'espace potentiel. Winnicott ne le conçoit ni comme un lieu matériel, ni comme une simple fantaisie privée. Il correspond à une ère de l'expérience où imaginer, percevoir et utiliser des éléments du monde peuvent se rencontrer. Cette ère se forme lorsque l'environnement précoce répond de manière suffisamment fiable aux besoins du bébé, tout en ne supprimant pas progressivement la nécessité de reconnaître une réalité extérieure. Dans cet entre-deux, l'enfant peut avoir illusion de créer ce qui lui est présenté, puis accepter peu à peu que les objets existent indépendamment de son désir. Le développement sain ne consiste donc pas à expulser la subjectivité au profit de faits objectifs, ni à enfermer le sujet dans ses fantasmes. Il suppose la possibilité de circuler entre expérience personnelle et réalité partagée. Winnicott donne ainsi une place structurante à une forme de paradoxe qui ne doit pas être résolue artificiellement. Dans la clinique, cet espace permet de comprendre pourquoi une interprétation exacte peut rester stérile si elle est imposée de l'extérieur. Elle doit pouvoir être reprise et éprouvée par le patient. La notion offre également un cadre pour penser les moments où cette ère fait défaut, lorsque le monde paraît trop intrusif, irréel ou dépourvu de sens personnel. Troisièmement, le jeu libre comme condition de la créativité et du travail analytique, pour Winnicott, jouer ne désigne pas principalement une activité réglée, compétitive ou orientée vers un résultat. Le jeu est une manière libre et précaire de faire exister des formes, des récits, des gestes et des relations dans une ère intermédiaire. Il implique une absorption qui ne supprime pas le contact avec la réalité, mais suspend temporairement les exigences de utilité immédiate et de vérification stricte. Cette conception permet de distinguer la créativité fondamentale de la production artistique ou de la performance. Une personne peut créer dans sa manière de percevoir et habiter le monde, même sans produire une œuvre reconnue. Inversement, une activité culturellement valorisée peut devenir défensive si elle ne laisse aucune place à une expérience personnelle. Dans la situation analytique, le jeu devient un critère essentiel du processus. Le patient et l'analyste doivent pouvoir trouver une zone où des pensées non encore organisées peuvent apparaître, être déplacées et prendre sens. Si seul l'analyste joue avec des interprétations, le traitement risque de devenir intrusif. Si le patient ne peut pas jouer du tout, le travail doit d'abord restaurer les conditions de sécurité et de confiance nécessaires à cette capacité. Cette perspective rend compte de la valeur clinique du silence, de la spontanéité et des formes indirectes de communication, surtout lorsque le langage explicite ne suffit pas. Quatrièmement, la culture comme prolongement adulte de ère transitionnelle, Winnicott situe origine de l'expérience culturelle dans la même ère que le jeu. La religion, les arts, la lecture, la musique et les pratiques symboliques ne sont pas, dans cette optique, de simples distractions ni de pures illusions à dénoncer. Ils offrent des formes partagées où chacun peut investir subjectivement des objets qui existent aussi hors de soi. Une œuvre ne vaut donc pas seulement par son contenu objectif ou par les intentions de son créateur. Elle devient significative parce qu'elle accueille un travail de participation, de reconnaissance et de recréation chez celui qui la reçoit. Cette analyse évite deux réductions fréquentes. La première ferait de la culture une évasion irréelle par rapport à la vie concrète. La seconde la ramènerait à un ensemble de faits sociaux extérieurs, sans prendre en compte expérience intime. Chez Winnicott, la culture a une réalité particulière. Fondée sur un accord tacite pour ne pas exiger une réponse définitive à la question de savoir si ce qui est vécu est trouvé ou créé. Cette thèse explique pourquoi la culture peut soutenir le sentiment de vivre, mais aussi pourquoi elle peut perdre sa vitalité lorsqu'elle devient consommation, conformisme ou savoir sans appropriation. Le livre propose ainsi une psychanalyse de la culture qui reste liée au premier lien de dépendance, sans réduire les œuvres à des symptômes infantiles. En dernier lieu, une théorie du développement fondée sur environnement suffisamment bon. Jeu et réalité prolonge une idée centrale de Winnicott, le développement psychique dépend de la qualité de l'environnement, surtout dans les phases de dépendance extrême. Il ne s'agit pas de réclamer une perfection éducative. La formule de mère suffisamment bonne indique au contraire que adaptation initiale aux besoins du bébé doit progressivement comporter des manquements supportables. Lorsque les soins sont assez stables, l'enfant peut éprouver une continuité d'existence et développer le sentiment que ses gestes spontanés ont des effets. Lorsque l'environnement est trop imprévisible, intrusif ou défaillant, la spontanéité peut être remplacée par une organisation défensive tournée vers les attentes externes. Cette opposition entre vrai self et faux self présente dans l'ensemble de son œuvre. Éclaire les enjeux du jeu joué librement suppose de ne pas avoir à protéger sans cesse un noyau fragile de soi. La portée de cette pensée dépasse une lecture normative de la parentalité. Elle invite à considérer les institutions, les relations de soins et les cadres thérapeutiques comme des environnements qui peuvent soit soutenir initiative personnelle, soit imposer une adaptation vide. Dans la cure, la fiabilité du cadre ne vaut pas comme simple règle technique. Elle crée les conditions pour que dépendance, colère, confiance et créativité puissent être vécues sans être immédiatement annulées. Cette attention au cadre relationnel distingue fortement Winnicott des modèles centrés avant tout sur interprétation des contenus inconscients. En conclusion, jeu et réalité s'adressent en premier lieu aux lecteurs de psychanalyse, aux cliniciens, aux étudiants en psychologie et aux professionnels qui travaillent avec enfants ou adultes. Il intéressera aussi les artistes, éducateurs et chercheurs en sciences humaines qui souhaitent penser la création autrement que comme une compétence individuelle ou un produit culturel. Son bénéfice intellectuel majeur est de fournir un vocabulaire précis pour décrire des expériences souvent mal saisies, attachement à un objet, plaisir de jouer, impression de vivre de façon personnelle, rapport aux œuvres et difficulté à investir le monde. Sur le plan pratique, il aide à porter attention aux conditions de sécurité, de confiance et de liberté nécessaires avant de chercher à expliquer ou corriger un comportement. Le livre se distingue des introductions générales à la psychanalyse par son ancrage dans une clinique de la relation précoce et par son refus des oppositions trop simples entre imaginaire et réel, dépendance et autonomie, subjectivité et objectivité. Plutôt que de proposer un modèle abstrait de l'appareil psychique, Winnicott examine les aires où la vie subjective devient partageable. Sa prose en essai peut demander du temps, car les concepts se construisent par retour et déplacement. Mais cette forme convient à son objet, elle laisse place au paradoxe et évite de transformer le vivant en schéma rigide. La place accordée au jeu comme fondement de la culture et de la cure donne à cet ouvrage une portée rare, à la frontière de la théorie clinique, du développement affectif et de l'esthétique. Si vous souhaitez soutenir DW Winnicott, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.